France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, moi, pour ce coup-là, je peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends?
Oh, les miens, ils en ont vu d'autres.
Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie.
Ainsi parle le héros de François Truffaut, Antoine Doinel, à son copain de classe, René. Les deux ados rêvent d'un ailleurs, de partir, de s'échapper, « anywhere out of the world », disait Baudelaire. En 1959, « Les 400 coups », premier film de Truffaut, raconte plusieurs de ses tentatives de fugue. L'ado de 15 ans commence par s'enfuir toute une nuit, errant dans les rues de la capitale, dans une ambiance à la fois mélancolique et étrange de fête foraine. Accusé d'avoir triché à l'école, il fugue à nouveau, ne va plus en classe mais au cinéma et se promène dans les rues du 9e arrondissement, le Paris de Truffaut. La troisième fugue de ce film culte est un des plans les plus célèbres de Truffaut. Jean-Pierre Léo, Antoine Doinel, s'est échappé cette fois du centre de redressement en Normandie où il a été placé. Dans un long travelling qui dure plus de 2 minutes, il court dans la campagne, il court dans la forêt, il court sur la plage, puis il court jusqu'à la mer. Il met les pieds dans l'eau et soudain se retourne. La caméra zoome sur son visage, il fixe le spectateur et c'est la fin du film, la fin de l'adolescence, la fin de la fugue. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, vous l'aurez compris, voici deux autres histoires de fugue adolescente par Rita Ruggiero.
Je m'appelle Laura, j'ai 37 ans, j'habite à Troyes, dans l'Aube, dans le Grand Est, et j'ai une société de production audiovisuelle. Je dirais que du côté de ma mère, c'était une famille assez bourgeoise, mais elle en tant que femme et que mère, était pas vraiment bourgeoise, parce que elle s'est séparée de mon père quand j'avais 6 ans et mon frère avait 10 ans. Et du coup, elle a dû vivre seule avec 2 enfants, donc bon, d'un coup, voilà, ça rabaisse le niveau de vie. La séparation se passe pas bien, vraiment pas bien. Donc c'était très brutal et c'était très dur. Ils n'ont pas fait ça proprement du tout. Ma mère est tombée en dépression après, une fois qu'il est parti. C'est-à-dire que elle a toujours été plus ou moins très mélancolique, voire dépressive. Et je pense que mine de rien, à 6 ans, je l'ai senti tout de suite. Et en fait, moi, je voulais pas qu'elle s'effondre parce que c'était le dernier parent qui restait. Voilà, je trouvais ça trop dur, quoi. Enfin, je me souviens qu'il y avait une chanson de Jacques Brel qu'elle écoutait à la maison, c'était « Ne me quitte pas », et elle pleurait tout le temps, et j'étais là, mais c'est affreux. J'avais peur qu'elle soit seule et triste, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite développé de l'empathie. J'étais une petite fille, je dirais assez réservée quand je connaissais pas les gens, juste timide, j'étais beaucoup dans l'observation, mais quand je connaissais bien les personnes et que j'étais en confiance, je rigolais beaucoup, voilà, j'étais joyeuse. Et je pense que j'aimais bien mon enfance, ouais. J'étais dans un collège à Boulogne, ma mère m'a changé de collège parce que ça n'allait plus, et je suis allée dans le 16e arrondissement à Jean-Baptiste C. Là, j'ai rencontré ma bande de copines, et là, ça a commencé les conneries. Ensemble, toutes, on a découvert le shit, l'alcool. Il y avait moi et Léonore, on était un peu avec une maman solo, et les autres, c'était famille très stricte, 16e, quoi, le cliché, quoi. Enfin, voilà, c'est... ce que je sais juste, c'est que moi j'étais considérée comme la mauvaise influence forcément, puisqu'en plus je venais de Boulogne, bon voilà, c'était pas trop les mêmes milieux sociaux, donc bon voilà, quand t'es une mère seule, t'es pas très respectée, quoi, on va dire, dans ce milieu-là. Et en fait, on était tout le temps chez moi, parce que moi je pouvais amener qui je voulais chez moi. Claire, ma meilleure amie de l'époque, elle était partie en vacances au ski et elle avait rencontré un garçon là-bas qui lui plaisait énormément et elle était triste parce qu'elle n'allait jamais le revoir. Et elle disait « Oh, pour une fois qu'il y en avait un qui me plaisait quand même, c'est pas de chance, nanana ». Et donc à la fin des cours, nous on disait qu'on n'avait aucune envie de rentrer chez nous, donc on traînait, on repoussait l'heure de partir. C'est souvent moi qui les poussais à rester dehors, à pas rentrer. « Ah, venez, on va acheter un paquet de clopes, oh, on va acheter une sucette, oh mais allez, restez encore un peu, s'il vous plaît les filles, je te paye un truc ». À chaque fois je disais « Je te paye un truc », alors je devais sûrement être la plus pauvre du groupe, mais c'est pas grave, je te paye un truc parce que je sais pas, ma mère devait me donner des sous. Et là, je dis non, on reste. Et à un moment donné, il y a eu un truc comme ça, genre, mais pourquoi on n'irait pas le voir, ton Julien? Il habitait au Havre, donc ça n'avait absolument aucun sens. Mais c'est moi qui avais ces idées complètement loufoques. Et puis là, elles rigolent, elles disent « Mais non, enfin, t'es folle, mais comment on va faire ?» Je disais « Mais je sais pas, on prend le train, quoi, et tout. Je sais pas, je prendrai de l'argent à ma mère. Enfin, j'en sais rien, quoi. Je pense qu'elles savent que quand j'ai une idée en tête, en général, on va y aller, quoi. » Et c'est en mars 2001, donc j'avais 13 ans. Claire, ma meilleure amie, qui elle avait plus de mal à adhérer au délire parce que elle avait des parents vraiment très stricts, donc pour elle ça engageait beaucoup plus que pour moi et Léonore. Il fallait qu'elle déroge de son rôle de petite fille bien sage, voilà, elle l'avait déjà fait puisqu'on faisait déjà n'importe quoi, mais là c'était quand même une sacrée étape. Donc on décide de prendre le métro jusqu'à chez moi. Donc là on arrive en fin de journée et je dis aux filles, attendez-moi dans la cour de mon immeuble, cachez-vous, je vais préparer un sac. Et donc, je prépare mes affaires, je prends une tente que j'avais jamais utilisée. Mais je me dis, mais trop bien, imagine, au moins on sera en sécurité dans notre tente, il ne pourra rien nous arriver et tout. Et je prends quelques affaires, des clopes, des fringues, brosses à dents, tout ça pour tout le monde. En mode action, tu sais, vraiment, comment je fais, qu'est-ce que j'ai à faire. Mais on ne s'est jamais dit quand est-ce qu'on revient, jamais. On s'est dit qu'il fallait qu'on y aille, qu'il fallait qu'on parte, qu'on prenne le train. On avait compris qu'il fallait prendre le train pour aller au Havre, déjà, hein, tu sais, voilà. On n'avait jamais voyagé seul de notre vie, donc on avait compris qu'il fallait aller à la gare prendre le train et qu'il fallait de l'argent, bien sûr, c'est important. Donc je m'étais dit, très bien, quand ma mère va rentrer, je vais dire que je vais promener le chien et je lui piquerai sa carte bleue dans son porte-monnaie et je tirerai de l'argent au distributeur. Voilà, c'était ça mon projet. Donc je vais promener le chien, j'ai sa carte sur moi, je tire des sous, je tire 1000 francs et je remonte. Je remets la carte dans son portefeuille quand même, je suis sympa. Et ma mère se trouvait dans sa chambre déjà pour lire. J'avais laissé un mot en disant j'ai fait une fuge, donc F-U-G-E. C'est un peu inquiétant de ne pas savoir écrire fugue en fait, je suis en train de me dire. Le son « gueux » n'était pas acquis visiblement. Donc voilà, et je prends mon sac et je me casse quoi. Donc je ferme doucement la porte et je rejoins mes copines en bas. Et après on se dit allez, donc on va prendre un taxi. Autant mener la belle vie, j'ai envie de te dire, voilà, taxi. Donc le taxi, je ne sais pas la gueule qu'il a dû faire quand il nous a vus, mais bref, en tout cas, il nous a emmenés à la gare. On arrive à la gare, on veut acheter un billet pour le Havre, sauf que on s'est trompé de gare, bien évidemment, parce qu'on voyageait pas seul, on savait pas. Je me rendais même pas compte à l'époque qu'il y avait plusieurs gares dans Paris et que chaque gare desservait une région, forcément. Donc du coup, on reprend le taxi pour aller à l'autre gare et là, on prend nos billets et c'était le dernier train pour le Havre. Du coup, on monte dans le train qui était complètement vide. Et donc, on avait des portables quand même à l'époque. C'était les premiers portables. Et moi, j'avais éteint mon téléphone parce que je voulais pas être perturbée par les parents. Et Léonore aussi avait éteint son téléphone. Mais Claire, elle continuait à recevoir des messages vocaux. Ou alors, je crois qu'elle rallumait son téléphone et elle écoutait les messages vocaux. Et je sais que je lui ai pris son portable. Je lui ai dit, tu arrêtes parce que pour une fois qu'on peut penser qu'à nous-mêmes et tout, arrête quoi. Tu vois, on est là pour s'amuser, pour rigoler, pour passer du temps ensemble. Arrête de penser à tes parents. Donc voilà, fin de l'histoire, le téléphone terminé quoi. Donc. On est parti à 21h20, on est arrivé à 23h35. Dans le train, on parle bien sûr du collège. On avait enlevé nos chaussures, on mettait nos pieds sur les banquettes du train. Et à un moment, les contrôleurs, ils passent une fois. Ils font un signe de la main du genre hop, 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 ou ça va, on vous dérange pas, ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on pensait qu'ils nous disaient ça, merde, ça y est, on est cramé quoi. En fait, non, c'était juste parce qu'on avait nos pieds sur les banquettes, donc voilà. Et puis après, au bout d'un moment, ils arrivent pour nous contrôler. Et là, il y a Claire, ma meilleure amie, je me suis rappelée de ça. Elle dit non, on n'a pas de billets. Et je la regarde, je me dis mais bien sûr que c'est qu'on a des billets. Tu vois, on les a achetés, arrête. Donc on monte les billets, on montre notre carte d'identité. Ok, très bien, merci, bon voyage les filles. Le fait d'être dans le train toute seule avec mes copines. À aller vers une ville qu'on connaît pas quand même, enfin je veux dire, puis le Havre c'est pas non plus très glamour quoi, mais on rigole, on se sent hyper libre de faire ce qu'on veut, hyper joyeuse, mais vraiment on a l'impression qu'on peut tout faire, tu vois, c'est bizarre ce sentiment de liberté, c'est pas normal quand même, je trouve aussi qu'en tant qu'enfant on puisse pas le ressentir du tout. Nous on faisait ça juste pour rigoler, pour se taper un kiff, donc je veux dire, t'as que les avantages, quoi. T'as l'impression de tout découvrir aussi. Donc, tout est drôle, tout est risible. Et puis, à cet âge-là, vraiment, les copains, c'est tout pour toi. Les amis, c'est... T'as l'impression que sans eux, tu meurs, en fait. Donc, pouvoir vivre ça avec eux, c'est... Je sais pas, je trouvais ça extraordinaire, moi. On arrive à la gare du Havre à 23h35. On arrive, il fait nuit, bien sûr, on est au mois de mars, il fait froid, bien sûr, alors au Havre encore pire. Je me rappelle d'une immense esplanade hyper venteuse et en face, quelques hôtels un peu lugubres, quoi, comme il y a dans les gares de province. Et donc là, on se dit, on va essayer d'aller prendre une chambre d'hôtel. Quoi. Vraiment, la tente que j'ai prise dans mon sac, c'était vraiment au cas où. Parce que je sais pas, j'imaginais ça comme une petite maison et que je me disais, s'il faut aller sur la plage et dormir sur la plage, au moins on pourra se poser dans la tente à l'abri des regards, quoi, en fait. C'était plus ça. Mais bon, quand même, on s'est dit, ce serait mieux de, vu qu'on a de la thune, autant aller dans un hôtel, faisons-nous plaisir, vivons la grande vie. Donc, on fait quelques hôtels. Et en fait, les hôteliers ne voulaient pas, soit pas nous prendre, parce que peut-être qu'ils voyaient qu'on était un peu jeunes et que ça leur paraissait bizarre. Et surtout, ils voulaient pas nous prendre parce qu'on était trois. Et qu'en général, les chambres, c'est pour deux. Au final, je suis retournée dans le premier hôtel où j'avais été, qui était juste en face de la gare. Je suis allée vraiment dans regarder, on va pas dormir dehors. Vraiment, je voulais lui faire de la peine, quoi, et presque qu'il se sente responsable de nous, parce que là, je me disais, c'est le dernier moment pour convaincre. Et voilà, je lui ai promis qu'on faisait pas de bruit, qu'on serait que toutes les trois, qu'on partirait tôt le lendemain, etc. Et il nous a dit, allez-y, voilà, mais vraiment, je vous fais confiance, les filles, voilà. Et, ah oui, très bien. Et là, trop heureuse, trop bien, on se dit, on a une solution, on est en sécurité. Donc, on a commencé à se rouler des joints, on a commencé... On se faisait beaucoup des guilis dans les cheveux, qu'on rigolait, qu'on stressait. Il y avait aussi... Un truc qu'on faisait quand on était ado, quand on n'avait pas beaucoup de poitrine, on mettait des chaussettes dans nos soutifs pour avoir une poitrine plus généreuse, quoi. Donc là, je vois ma copine Claire enlever les chaussettes qu'elle avait dans son soutif, tu vois, pour être plus à l'aise, tu vois. Truc con. On rigole et puis je pense qu'au bout d'un moment, on a fini par s'endormir parce que c'était quand même une grosse journée, quoi, finalement. Je m'endors bien, quoi. Je veux dire, je m'endors. Enfin, j'ai pas de stress, en fait. De toute façon, on avait fumé et puis on était ensemble. Enfin, je veux dire, quand t'es avec des gens en qui t'as confiance, peu importe l'âge, hein, t'es bien, en fait.
Le lendemain matin, vous vous réveillez et qu'est-ce qui se passe ?
On s'était décidé de prendre le funiculaire parce que je pense qu'on n'en avait jamais pris de notre vie. Et on montait, on descendait, mais sans but, hein, voilà. Après, on est allé à la plage. Et en fait, on a passé toute cette journée pour attendre que Julien sorte des cours. On est allé devant le collège et devant le collège, dans mes souvenirs, il y avait une voiture de flic. Donc on s'était caché et on avait attendu qu'il sorte et on l'avait suivi. Et au bout d'un moment, quand on voyait que c'était un peu plus tranquille. Je crois quand il est rentré chez lui, on l'a rejoint. Bon, par contre, lui, très content de nous voir, quoi. Je veux dire, il y a son amoureuse, il y a deux copines en plus, on est sympa, on rigole, on est dans sa chambre, on parle, on se raconte des choses. Voilà, quoi, il est super content. Alors, je crois quand on est arrivé, ils n'étaient pas là, ses parents. Mais après, ils sont arrivés, bien sûr, et aussi très accueillants, très sympas. Vraiment, t'es là, mais ok, génial. Est-ce que vous voulez manger là, les filles, ce soir ? Ah bah oui, super. Et vous dormez où ? Ah bah là, on avait pris un hôtel, mais là, on sait pas. Bah, vous pouvez dormir ici, si vous voulez. Alors bon, là, je pense qu'on a été un peu crédules, quoi, parce que je veux dire, un père qui se demande pas non plus... Ouais, c'est un peu bizarre, je pense que là, on s'est un peu fait avoir, quand même. Je pense qu'il a dû être assez bon dans ses manigances, mais voilà. Fin de soirée, on entend sonner à la porte, on entend des gens qui discutent en bas, et là, on nous appelle. Le père de Julien nous demande de venir. Donc, on descend, et puis là, moi, je vois le père de Claire. En fait, c'était le seul homme des familles, finalement, parce que ma mère, mon père n'était plus là, et la mère d'Éléonore, elle vivait seule aussi. Donc, ils avaient envoyé le papa, quoi. Et lui, il rigole pas du tout, hein. Il rigolait pas du tout, du tout. Il était très strict, voilà, c'était vraiment le patriarche. C'était les enfants à leur place, les parents à leur place, donc moi j'avais assez peur de lui. Là, je prends conscience de ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, tu vois tout ce qui s'est passé en ton absence dans ta vie, en fait. Donc voilà, tous tes proches que t'as laissés, toute cette vie que t'as laissée, et là tu te rends compte que non, c'est pas joyeux en fait ce que tu fais là. Donc on prend nos affaires, et dans la voiture, pas un mot, mais même entre nous on se parlait pas, on se disait mais c'est la merde, vraiment, là c'est la merde. Alors là vraiment, et puis c'est long hein, de rentrer du Havre, hein. C'est long, et puis il est arrivé en fin de soirée, donc on était fatigués, donc forcément au bout du voyage on s'endormait, puis moi je devais rester éveillée pour lui indiquer mon adresse, parce qu'il me déposait en première à Boulogne, et après il allait à Paris. Notre insouciance, là, oui, c'est à ce moment-là que je l'ai perdu, quoi, clairement. C'est vraiment là où tu dis, ok, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, et on a quand même une responsabilité à porter, même en tant qu'enfant, quoi, et qu'adolescent, quoi. J'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé pour Claire. Je pense qu'elle, elle a décidé de rester dans le droit chemin, quoi, et d'arrêter les conneries, en fait. Donc ça nous a complètement fragilisés au point où on se voit plus du tout. Et c'était une relation amicale très, très puissante et très forte. Moi, j'ai jamais ressenti ça à quelqu'un après. Je l'ai plus jamais revu. Non. Donc le père de Claire me dépose en bas de chez moi. J'ouvre la porte et j'entre dans le salon salle à manger. Bien sûr, les lumières étaient allumées, alors qu'il était très tard. Et mon frère et ma mère étaient sur le canapé et je vois mon frère qui me regarde pas, ma mère qui me regarde mais qui a le visage complètement bouffi parce que elle a dû pleurer à mon avis. En fait, pour nous retrouver, les policiers ils avaient dit à ma mère et mon frère de faire des rondes dans le quartier en voiture. Et là, ma mère, laxiste, et ben en fait, c'était la seule à avoir des infos parce que moi, je lui racontais tout. Et donc, en fait, moi, je lui avais raconté que Claire, elle était revenue de vacances, qu'elle avait eu un amoureux Julien là-bas, mais que c'était très triste et qu'un jour, elle espérait aller le revoir au Havre. Ben ouais, mais moi, c'est ma mère qui avait l'info. Les autres, mais que dalle, ils étaient perchés, ils savaient rien puisqu'ils étaient tellement stricts qu'on pouvait rien leur dire. Donc les flics, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais le fait est que la mère de ma mère, donc ma grand-mère, avait un hôtel à Boulogne à cette époque-là et que elle, on avait réussi à obtenir le nom du Julien parce que forcément, comme ils étaient dans un club de vacances, les parents de Claire avaient dû trouver le nom de famille. Et ma grand-mère, avec le Minitel et le bottin, elle avait fait tous les noms de famille de Julien du Havre et elle avait appelé toutes les familles. Et elle avait retrouvé les parents de Julien. Donc les flics, à mon avis, ils n'ont pas aussi bien cherché que ma grand-mère. Je m'en veux d'avoir inquiété ma mère, mais en fait, si c'était à refaire, je le referais. J'ai vécu un truc qui est tellement fou que je le referais.
France Culture. Les pieds sur terre.
Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 19 ans, j'habite à Lyon, donc je travaille dans le secteur des forces de l'ordre. C'est vrai que j'étais un adolescent assez perturbé, la scolarité c'était assez compliqué, je m'intégrais pas très facilement non plus. Et je rencontre une fille, je tombe assez amoureux directement, il y a une forme d'attachement vraiment pas obsessionnel, mais très vraiment à fond, quoi. Je donnais tout. Toute ma personne pour elle. Je faisais passer elle avant tout. C'était avant ma famille, avant mes amis. Je me suis beaucoup isolé. Et du coup, on a commencé très vite à aller chacun chez l'autre tous les week-ends, passer tout notre temps ensemble. Donc elle avait un an de moins que moi. Moi j'avais 15 ans, elle en avait 14. On s'imagine beaucoup faire des trucs ensemble tous les deux. On se dit on va partir, on va vivre en caravane tous les deux. On virevoltait à droite, à gauche, mais toujours ensemble. On était toujours ensemble et c'était nous contre le reste du monde. Nous contre nos familles, nous contre les gens qui nous voulaient du mal. C'était une unité entre nous deux, ouais. Et donc, il y a un jour où, au final, la veille, on s'embrouille avec nos familles, tous les deux respectivement. Nous, on passait tout notre temps au téléphone ensemble, donc c'est vrai qu'on en parlait. Elle était en colère, moi j'étais en colère. Et donc vient un moment où elle me dit ben, « on va partir ». Clairement, on va fuguer, je l'ai déjà fait, je sais comment on fait. Et donc elle me dit ben, « prépare des affaires et ni une ni deux, pour moi c'est fait, quoi. Dans ma tête, c'est « on part demain ». Donc je prépare des affaires, je prends une pièce d'identité et je prends rien d'autre. Ouais, je suis un peu dans cet état un peu quasiment de transe, quoi, où on... comme un fuyard quoi, qui fuirait après avoir fait une grosse connerie, quoi. Je me rengueule avec ma mère et donc elle me prend mon téléphone. Et du coup, ce matin-là, j'ai pas pu prévenir mon ex-copine que j'arrivais, c'était compliqué. Je claque la porte, j'ai réussi à partir sans réveiller ma mère. Pour moi, c'est un peu une folie. Et ensuite, par contre, je suis tout content parce que je me dis, je sors, je suis tout seul en pleine nuit, c'est le début de la liberté pour moi, il n'y a plus rien qui me retient. Et du coup, j'arrive devant chez elle à 6h30, et là, je la vois sortir. Et je vais la voir, je lui dis « Ok, t'as fait tes affaires, on part ». Et après, au final, elle fait des affaires, et on a de l'argent liquide. On a, je crois, à peu près 400 euros. Il y avait cette discussion de « Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc je lui dis « Mais au pire, moi, je trouve un petit travail au black pour juste gagner de l'argent, quoi. » Et toujours sur le même modèle d'amour et d'eau fraîche, quoi. Au pire, on n'aura qu'à appeler deux, trois fois par mois nos familles sur une cabine téléphonique. Enfin, vraiment, on part dans l'optique d'y rester longtemps, quoi, et qu'on on nous chopera pas. Et donc, on avance comme ça, un peu vers l'inconnu, on arrive à une gare, un peu à l'extérieur de Lyon. Donc là, je sais pas ce qui nous passe par la tête, mais aucune notion d'économie d'argent. On achète un iPhone 6, il nous coûte, je crois, à peu près 120-130 euros. Et donc là, on a notre téléphone, on a un chargeur, on a tout payé, et c'est vrai qu'on n'avait pas du tout cette notion de « Ok, il faut qu'on garde de l'argent pour survivre un minimum, quoi. » Et on se dit « Bon, bah, c'est bon, on part à Marseille. » Donc on arrive à Marseille, et donc on décide de prendre un bus, et là on se retrouve dans un bled à côté de Marseille, c'est Montredon, et du coup on trouve dans une petite crique, il y avait un peu une cabine sur cette crique, le toit était accolé à la falaise quoi. Et du coup on se dit bah, on va se coucher là. Au bout d'un moment on se rend compte que bon, l'air marin est assez frais, on est au mois d'avril, on a peut-être vu les choses en grand. Je crois qu'on a comme une petite couette un peu type sac de couchage. Et là on se dit, on va crever de froid. C'est pas possible, on part. Donc on cherche un endroit où dormir, mais un peu plus random quoi, un peu plus dans la rue quoi. Et on arrive devant une caravane, c'est un couple, c'est un homme et une femme. Des Italiens, vraiment pure souche, et donc ils nous accueillent. Quoi, il y a vraiment des enceintes de partout, puis il y a une odeur d'herbe qui est prédominante. Vraiment, on rentre, on peut pas passer à côté. Et donc ils nous disent, vous allez pouvoir nous vous poser là, en nous montrant une petite banquette. Et nous, on se dit, mais c'est super, quoi. On est tombé avec des gens trop sympas. Et c'est quasiment cliché, mais ils nous ont fait des lasagnes à manger. Ils faisaient pas la distinction qu'on était des gamins, quoi. Et donc on va se coucher. Et arrive le matin, donc le soleil se lève, on se réveille. Le couple où, dans la caravane où on était hébergés, ils s'engueulent les deux, l'homme et la femme. À un moment, le mec prend un couteau quand même. Elle me dit, mon ex, elle me dit, bon là, faut partir. Pour moi, ça puait. À ce moment-là, je le comprends quand elle me dit, on part. On va où ? On fait quoi ? On regarde tous les panneaux des bus. Et là, on voit Flixbus. Il y en a un en direction de Gênes, dans approximativement 3 heures. Donc on arrive vers 22 heures à Gênes. Et là, pour le coup, on n'a pas d'endroit où dormir. On se couche, on se met à peu près dans le sac de couchage comme on peut à deux. On n'y arrive pas, évidemment, parce que le sol est gelé, qui doit faire 8 degrés à tout casser. C'est pas très confortable, quoi. Et donc, il est 6 heures du matin, on est en plein dans Gênes. On marche et donc on arrive à la frontière de Gênes avec la campagne un peu italienne. Et ce fameux téléphone qu'on avait, qui nous servait à rien, à part regarder les réseaux sociaux de tous nos amis, où ils partageaient nos avis de disparition. Et je pense que c'est un peu malsain, mais on avait un peu ce côté un peu plaisant, en se disant bah, « Nous, on voit ce que vous postez, mais vous, vous savez pas où on est. » Et du coup, on avait créé un faux compte sur les réseaux et tout, juste pour suivre ce que nos connaissances postaient, quoi. Et donc on achète nos dernières provisions, il nous reste plus d'argent du tout. Je crois qu'on avait acheté des mouchoirs et un tout petit peu à manger. Et on décide de faire la Manche. Au moment où on voit des carabiniers avec une femme, et donc la femme nous pointe du doigt. Là on se dit, bizarre. Et donc ils arrivent à deux à côté de nous, prennent nos identités, et en fait ils nous ramènent à pied jusqu'à leur commissariat. On les suit, ils nous mettent dans une grande pièce, et là, donc on se dit, ok, on fait un plan, on va partir. Je demande d'aller aux toilettes, ce qui me fait passer dans tous les couloirs, du coup je vois un peu comment c'est fait. Juste à côté de la pièce où on était, il y avait un bureau, c'était un bureau avec des ordinateurs et des fenêtres, qui n'était pas ouverte mais pas fermée à clé, quoi. Et donc, je me dis, ok, c'est par là qu'on va partir. Du coup, on prépare un plus petit sac, plus léger. On laisse quasiment toutes nos affaires sur place. On a une brosse à dents, du dentifrice et quelques vêtements, quoi. On avait mis des couches de vêtements par-dessus nos vêtements qu'on avait. On ouvre la fenêtre. Je balance le sac dans la rue. On saute. Il y avait, je pense, 2 mètres. Et là, on se met à courir comme des fous. Comme des fous, on passe dans la ville, puis on arrive dans une forêt. On continue à avancer. On marche, mais on marche toute l'après-midi. Mais ça s'entendait, il y avait des sirènes, il y avait des chiens. On a vu un hélico juste au-dessus, mais on continue à marcher. Le téléphone n'a plus de batterie. Donc on ne sait pas où on va. Et là, on se cale sous une sorte de pont pour essayer d'y rester un peu. Et en fait, bon, mon ex avait très faim à ce moment-là. Un besoin de nourriture immédiat, visiblement. Donc on redescend, direction la ville qu'on avait juste à côté. On va devant une pizzeria, on voit qu'ils font des pâtes. Juste la pâte de pizza, sans garniture, sans rien, juste la pâte pour 6 euros. Donc là, on se dit, super. Donc arrivé à la pizzeria, on entend un gros crissement de frein. Juste derrière nous, on se retourne. Bon, évidemment, c'était les mêmes carabiniers qui nous avaient arrêtés le matin, sauf qu'ils étaient en tenue plus civile. Là, ils nous attrapent, clairement, ils nous collent contre la voiture. Et donc, ils nous mettent dans une voiture, c'est une vieille banquette en plastique, enfin, une voiture de police, quoi. Il n'y a même pas de ceinture. Et donc, ils nous ramènent au même commissariat. À partir de ce moment-là, on voit donc la mère de mon ex, ma mère et ma sœur. En fait, le premier réflexe, c'est ni de me mettre une gifle ni rien, c'est juste de... Elle saute dans nos bras, quasiment. Et je crois que j'ai un peu ces mots en lui disant « ça va ». Parce que je sens qu'elle pleure. Et, enfin, je pense que ça a dû être 48 heures terribles. C'était... j'étais son fils et elle savait pas où j'étais. Elle avait aucune prise sur ce qui m'arrivait. Je pense que c'était très compliqué pour elle. Enfin, moi, je suis très tendu, je parle pas. On repart, trajet retour, immédiatement. On rentre à Lyon. Moi, je dormis plus de 16 heures d'affilée direct. C'est entre la plus grosse aventure un peu folle que j'ai vécue et la plus grosse connerie que j'ai faite.
C'était Deux fugues adolescentes, un reportage de Rita Ruggirello réalisé par Benjamin Hu. Merci à Thibaut, à Laura et à Louise H, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
There's nothing left to do. Dream till you couldn't see her face, but you saw everything.